Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. En s'adressant à ses apôtres, Jésus dit un jour : souvenez-vous de la femme de Lot. L'histoire de cette femme, transformée en statue de sel, a souvent intrigué les lecteurs de l'Ancien Testament. Certains considèrent ce récit avec un certain scepticisme, allant même parfois jusqu'à le ridiculiser ouvertement. Jésus, quant à lui, considère cette histoire comme étant vraie, puisqu'il la cite dans son enseignement. Cependant, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il dit à ses disciples d'avoir à se souvenir de cette femme. Je pense que c'est tout simplement parce que son péché était la désobéissance aux instructions divines. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait en quelque sorte le point sur ce sujet brûlant quand il avertit « Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ?» L'obéissance amène les bénédictions promises, mais la désobéissance entraîne l'homme à quitter de plus en plus la voie que lui a tracée son Créateur et à en subir les funestes conséquences. Désobéir, c'est négliger ou refuser d'obéir. C'est violer un ordre ou une interdiction, omettre de faire ce qui est ordonné ou tout simplement faire ce qui est interdit. La désobéissance, c'est également ne pas vouloir se conformer ou se plier à l'autorité divine. Il est extrêmement dangereux pour l'homme de vouloir sans cesse choisir sa propre voie. Il ne peut qu'en souffrir et par voie de conséquence faire souffrir les autres. Si l'être humain avait le pouvoir de dominer l'univers, il finirait tôt ou tard par le détruire. Oui, nous sommes ainsi. Personne ne connaît réellement ses propres besoins et bien sûr encore moins ceux des autres. Un des hommes les plus sages de l'Ancien Testament dit dans le livre de l'Ecclésiaste « Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre ?» La réponse est très simple. Personne ne sait, sinon Dieu. Notre Créateur a révélé dans la Bible ce qui est bon pour l'homme. Et la désobéissance à cet ordre des choses ne peut qu'être désastreuse pour la créature humaine. Hélas, les hommes ne le réalisent souvent pas. Ils ne veulent pas admettre que si Dieu demande qu'ils lui obéissent, c'est en réalité dans leur propre intérêt. L'homme est une créature morale, faite à l'image spirituelle de Dieu. Il est capable de discerner le bien et le mal. S'il n'en était pas ainsi, l'être humain ne serait qu'un animal, ou encore même un robot. Mais puisqu'il est précisément une créature morale, et non une bête ou une machine incapable de discernement, un gouvernement moral et des lois spirituelles sont essentielles à son bonheur et à son bien. L'humanité vivante à l'heure actuelle refuse souvent d'admettre qu'elle a tout intérêt à vivre selon les lois spirituelles que son Père, rempli d'amour, met à sa disposition. Dans le monde physique, Dieu a créé le poisson pour qu'il puisse vivre et se développer dans l'eau. S'il quitte cet élément liquide qui lui est destiné, il mourra à plus ou moins brève échéance. Il en est de même en ce qui concerne le domaine spirituel et moral. Si l'homme choisit de vivre en dehors des règles édictées par son Dieu, il ne peut qu'encourir la souffrance, l'insécurité, et il finira tôt ou tard par mourir spirituellement. Ce simple principe illustre le pourquoi de l'exigence divine d'avoir à obéir à ses lois. Ce que Dieu demande est tout simplement dans notre propre intérêt. Il nous aime. Et il sait pertinemment bien ce qui peut marcher ou ne pas marcher dans cette lutte qu'est la vie. Il faut cependant constater avec objectivité que souvent l'homme, au lieu de remercier son Père Céleste de lui avoir donné clairement, simplement sa volonté dans la Bible, veut faire lui-même sa propre expérience. Et il le fait la plupart du temps à son détriment, dans la tristesse, l'amertume et le dessèchement spirituel. On dit que l'expérience n'est en réalité que le résultat des erreurs commises. Combien cela est vrai? Mais en matière spirituelle, les erreurs prennent souvent des allures de catastrophe irréversible. La désobéissance, qui n'est en fait que la transgression d'une loi parfaite de liberté, ne peut amener qu'une juste rétribution, tout d'abord dans cette vie ici-bas, et ensuite au cours de toute l'éternité. Il faut absolument comprendre que si nous n'obéissons pas aux enseignements de Jésus-Christ, nous suivons la loi despotique du prince de ce monde, Satan. Jésus le proclame bien haut, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il n'y a aucune possibilité de pouvoir rester neutre, au milieu ou entre les deux. On ne peut obéir à moitié ou désobéir à moitié. C'est soit l'un, soit l'autre. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Vous qui écoutez ceci, à qui obéissez-vous? À Dieu ou à Satan? L'enfer n'a nullement été préparé pour l'homme. Non, je ne le crois pas. La géhenne est préparée pour Satan et ses anges. Mais quand l'homme choisit d'écouter le diable dans cette vie, alors il doit également accepter l'idée qu'il va également devoir partager sa demeure éternelle. Écoutez-moi bien. Il est impossible de suivre Satan sur les sentiers de la vie et d'ensuite entrer pour l'éternité dans le paradis du seul vrai Dieu. On pense en général que puisqu'on vit sous la dispensation de la grâce, l'obéissance à la volonté de Dieu n'est pas requise. On va même jusqu'à enseigner que les comptes que nous aurons à rendre un jour ne seront après tout pas si stricts que cela. Dieu n'est-il pas après tout infiniment bon? On en arrive même à croire que la grâce de Dieu est tellement grande qu'elle représente presque une licence tacite de ne plus penser à sa volonté. En réalité, en agissant ainsi, on foule aux pieds le Fils de Dieu et le Nouveau Testament. Comment peut-on en arriver à imaginer que la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ est une chose qui n'est pas du tout nécessaire au salut? Et même que si on ne l'observe pas, on sera malgré tout sauvé par la grâce. Écoutons les paroles d'avertissement de Paul dans sa lettre aux Romains. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Nous voyons donc que le manque d'obéissance recevra une juste rétribution. Mes paroles sont peut-être dures, je le réalise, mais elles ne sont pourtant que le reflet exact de la parole de Dieu. La grâce de l'Éternel peut nous sauver. Mais nous nous leurrons si nous croyons que cela n'implique aucune obéissance de notre part. C'est jouer le sort de notre âme que de penser ainsi. Il se trouve toujours quelqu'un pour accuser Dieu de faire pécher l'homme. Souvent, nous entendons des gens dire « Pourquoi Dieu a-t-il fait le péché pour ensuite nous dire de ne pas y succomber ?» Dieu n'a nullement créé le péché. Notre gouvernement promulgue des lois, mais pas les violations de ces lois. Ces règles sont faites pour le bien de chaque citoyen, ainsi que pour la sauvegarde de la société en général. Aimerions-nous vivre dans l'anarchie d'un pays dépourvu de lois? Pourrions-nous le faire? Probablement pas. Dieu n'a jamais créé le péché et n'a jamais été la cause de la faute de l'homme. Notre Créateur nous demande d'obéir à certaines lois spirituelles pour notre bien et le bonheur de la société. Il n'est nullement un tyran cruel, mais un ami qui nous aime. Dieu nous a créés et il est par conséquent mieux à même que n'importe qui de savoir ce qui nous convient le mieux. Ces lois spirituelles sont essentielles à notre bien-être, notre bonheur, notre sécurité, aussi bien sur cette terre que dans l'au-delà. L'obéissance est souvent un véritable mode de vie qui doit être choisi et même appris. Chaque individu possède en effet sa propre volonté, souvent très forte, et qui se manifeste très tôt dans sa vie. Cette volonté doit être disciplinée, entraînée pour pouvoir être contrôlée. Dans le monde physique, l'être humain apprend très vite à observer les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois de la nature, car sinon, il en supporte les conséquences. Un enfant, par exemple, apprend très rapidement à ne pas toucher une flamme ou quelque chose de chaud. Une seule expérience de ce genre est généralement suffisante pour lui mettre plus de plomb dans la cervelle et lui faire comprendre que l'univers est régi par certaines règles qu'il faut absolument observer. En ce qui concerne le domaine spirituel, le père a fait usage de moyens peut-être plus énergiques encore pour enseigner l'obéissance à ses enfants. Il le fallait, car l'enjeu en est bien plus important. Les récompenses accordées par Dieu à ceux qui l'écoutent sont grandes. Mais par contre, les conséquences de la désobéissance sont encore bien plus grandes, car elles mettent en péril la vie éternelle elle-même. L'obéissance doit être apprise. Elle a dû être apprise même au ciel. Et la Bible révèle que Dieu ne ménage pas les anges qui avaient péché contre sa volonté. Il n'épargna pas le monde du temps de Noé, ni Sodome, ni Gomorre, ni les Israélites dans le désert. Avez-vous jamais songé à ces exemples et à leur corrélation avec le refus d'obéir à Dieu? Le Saint-Esprit a inspiré Pierre quand il écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Oui, Dieu en a fait un exemple, de manière à ce que nous soyons pleinement conscients des conséquences énormes de la désobéissance. Non seulement tous les hommes et même les anges doivent apprendre à obéir, mais Christ lui-même a dû le faire. Il n'y a pas d'exception à cette règle. L'Épître aux Hébreux nous montre ce Christ, humain et divin à la fois, qui a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. De même que Christ a appris l'obéissance, de même chaque âme qui désire être sauvée doit passer par l'apprentissage du respect de la loi divine. La nature même de notre volonté est de s'affirmer. C'est même une de ses qualités primordiales, et ce n'est pas du tout un signe de dépravation héréditaire, comme on pourrait le croire. Cela démontre même la force de notre volonté, mais elle doit être entraînée, moulée, raffinée. De tout temps, et spécialement au cours de cette génération, les hommes n'ont pas observé la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'on ne leur a pas assez enseigné le grand principe de l'obéissance. Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Les chrétiens qui ne portent pas d'autres noms, ils ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout de pratique le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité de nous. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086 Toulouse-Sedex. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086 Toulouse.